Le journal vous est présenté par Olivier Béniz. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à tous. Abdelaziz Bouteflika de retour en Algérie, en tout cas selon les autorités locales qui assurent qu'il a regagné le territoire après deux semaines en Suisse pour raisons de santé. Retour sur fond de colère toujours intacte dans le pays, nous irons sur place. 157 morts dont 7 Français après le crash d'un vol de la compagnie Ethiopian Airlines ce matin. L'appareil était un Boeing 737, victime vraisemblablement d'un problème technique. Bernard Tapie angoissé mais déterminé à ce que la vérité éclate avant l'ouverture demain de son procès pénal dans l'affaire de l'arbitrage autour de la vente d'Adidas. Vous l'entendrez. Autre procès très attendu, celui de Carlos Ghosn, le patron déchu de Renault-Nissan, est sorti de prison cette semaine et depuis, les médias japonais font le pied de grue devant son domicile. Et puis juste après ce journal, on fera le point sur ce week-end sportif qui s'achève avec notamment le tournoi des 6 nations de rugby où la France n'a pas vraiment brillé face à l'Irlande. Ce sera avec Fabrice Abgral. Mais où est Abdelaziz Bouteflika? Cette question de nombreux Algériens se la posent depuis plusieurs années, tant les apparitions de leur président ont été rares depuis son AVC en 2013. Mais il se la posait encore un peu plus aujourd'hui avec le rocambolesque retour annoncé du dirigeant de 82 ans, jusqu'ici hospitalisé à Genève, en Suisse, pour des examens médicaux. Il serait revenu ce soir en Algérie par avion, en tout cas, c'est ce qu'annonce la présidence. Bonsoir Laïla Barato.
Bonsoir.
Alors ce retour, il est concrétisé ce soir, ça y est, Bouteflika est en Algérie?
Oui, selon les autorités, le président algérien a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Boufarik en fin d'après-midi. Un cortège de voitures noires encadré par la police a ensuite pris la direction de Zeralda, à l'ouest de la capitale, là où réside le président. Abdelaziz Bouteflika avait quitté le pays le 24 février dernier pour des contrôles médicaux et un court séjour, selon les autorités. 48 heures plus tôt, le président était apparu à la télévision à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment du président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, l'homme qui doit valider d'ici 48 heures la candidature du président algérien pour un cinquième mandat. Depuis l'hospitalisation du président à Genève, des manifestations inédites ont eu lieu dans tout le pays contre un cinquième mandat et pour un changement de système politique. La présidence a répondu à ces manifestations par une lettre proposant des élections anticipées et une conférence nationale pour amorcer une transition si Abdelaziz Bouteflika était élu. Des propositions qui n'ont pas enrayé la mobilisation, qui s'est au contraire amplifiée. Depuis ce matin, un appel à la grève générale est lancé dans tout le pays.
Merci Laïla Berato en direct d'Alger. En France, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont défilé dans plusieurs villes pour réclamer elles aussi le fait que Abdelaziz Bouteflika ne se présente pas pour une cinquième fois à la présidence algérienne. 1 million de personnes à Marseille, 10 000 à Paris selon la préfecture de police où la place de la République était noire de monde tout à l'heure. 157 morts, 149 passagers et 8 membres d'équipage dans le crash d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines qui assurait ce matin une liaison entre Addis Abeba et Nairobi, des victimes d'une trentaine de nationalités différentes, dont 7 Français. Emmanuel Macron a adressé cet après-midi ses condoléances aux familles et aux proches des victimes du drame. L'avion, un Boeing 737, s'est écrasé peu après le décollage. Le pilote faisait alors état de difficultés. Ce n'est pas la première fois que ce modèle est mis en cause, Frédéric Beignada.
Il est difficile de ne pas faire le lien entre l'accident de ce 737-800 MAX d'Ethiopian Airlines et celui d'un autre appareil du même type de la compagnie indonésienne Lion Air tombé en mer de Java en octobre dernier. Dans les deux cas, l'avion était neuf. Lors de l'accident de Lion Air, l'enquête avait mis en évidence une défaillance d'un nouveau système de stabilisation de la gouverne de profondeur, ce qui fait que les pilotes n'avaient pu empêcher l'appareil de piquer vers la mer 13 minutes seulement après le décollage. 6 minutes dans le cas du 737 d'Ethiopian Airlines. Les pilotes n'avaient pas été informés lors de la formation prévue à cet effet chez Boeing de la procédure à suivre en cas de panne, une formation que l'avionneur jugeait inutile et surtout trop coûteuse. La FAA, l'administration américaine et l'Europe s'en étaient émus, mais sans qu'il ne se passe rien. L'analyse des enregistreurs de vol confirmera ou infirmera l'existence d'une cause commune à ces deux accidents. Ce que l'on sait en attendant de retrouver les boîtes noires, c'est que la météo était bonne, que l'équipage a signalé au contrôle aérien un problème et a demandé à revenir à l'aéroport d'Addis Abeba et surtout que la compagnie éthiopienne détenue à 100% par l'État éthiopien est une compagnie extrêmement sérieuse.
Un troisième jour sans électricité pour de nombreux Vénézuéliens après une panne générale qui n'aide pas vraiment à calmer les esprits en pleine crise politique. En cause, la centrale électrique de Goury dans le sud du pays qui dessert environ les 3/4 du Venezuela. Le gouvernement affirme qu'elle a été visée par une attaque informatique étrangère. L'opposition que cette panne est due à un manque d'entretien. Le chef de file de l'opposition, Juan Guaido a annoncé qu'il allait demander au Parlement de décréter l'état d'urgence. Jamais 203. Depuis quelques jours, les figures politiques françaises y vont de leur tribune sur les européennes. Après Emmanuel Macron mardi dernier, Laurent Wauquiez hier, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon de publier un long texte adressé aux citoyens européens. Là aussi en réponse à la lettre ouverte du chef de l'État, intitulé « Sortez des traités stupides » avec une virgule avant stupide. Le texte publié ce soir dans le journal Libération estime que la justice sociale et l'ambition écologique imposent de quitter l'ordo-libéralisme. Le leader de la France insoumise réclame un changement de direction urgent pour quitter, dit-il, les vieilles recettes stupides et morbides d'Emmanuel Macron et Angela Merkel. La taxe carbone a beau avoir été l'un des déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes, l'idée est loin d'être abandonnée par la majorité. Après être revenu déjà sous la forme d'une tribune de 86 députés, c'est Stanislas Guérini lui-même qui reprend l'idée cet après-midi lors d'une réunion publique à Chartres devant des militants LREM. Le patron du parti majoritaire n'exclut pas un retour sous une forme différente de cette taxe carbone.
Il faudra être évidemment très attentif en matière d'accompagnement à la mobilité. C'était peut-être le déclencheur de ce mouvement social. Et c'est pour cela que nous voulons formuler cette proposition, de faire en sorte que l'État et les collectivités puissent être capables de proposer des voitures à faible émission, à moins de 50 euros par mois, en location longue durée. Ça, c'est concret. Si nous sommes volontaristes, concrets, ambitieux, sur l'accompagnement de la transition écologique. Alors, il faut qu'on puisse reposer la question de la taxe carbone. Ça ne doit pas être une question taboue qui doit être passée sous le tapis à la sortie de ce grand débat. Mais cette taxe carbone, elle ne doit pas manquer sa cible. Pourquoi ne pas préserver le principe d'une hausse de la taxe carbone qui s'appliquerait notamment au transport aérien et maritime? En d'autres termes, la taxation carbone, la fiscalité carbone, elle ne peut être acceptée que si elle est ciblée, si elle est partagée, si elle est juste et cohérente et transparente.
Propos recueillis par Élodie Forest, Stanislas Guérini qui remet aussi sur la table l'idée pas vraiment neuve de mettre en place une journée de travail supplémentaire pour financer la dépendance. Voici un autre projet de loi qui semble lui aussi être coincé dans les limbes, la loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Sa présentation prévue demain en Conseil des ministres vient d'être reportée officiellement pour que l'ambition du texte soit renforcée selon des sources gouvernementales. Un délai qui devrait permettre de changer notamment l'objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre, selon le député Mathieu Orphelin. Le nouvel objectif serait de les diviser par 6. C'est une affaire judiciaire qui est née en 93. 26 ans plus tard, Bernard Tapie est au cœur du procès pénal de l'arbitrage rendu en sa faveur en 2008 dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais. L'ancien homme d'affaires, 76 ans, est jugé pour escroquerie, détournement de fonds publics. Stéphane Richard, PDG d'Orange aujourd'hui, mais directeur de cabinet de Christine Lagarde à l'époque, est lui jugé pour complicité. En 2017, dans le volet civil de l'affaire, Bernard Tapie avait été condamné définitivement à rembourser plus de 400 millions d'euros accordés par ce fameux arbitrage. Pour lui, ce procès qui s'ouvre demain est l'occasion de régler des comptes.
Moi, ma motivation à mort, c'est que soient reconnues les fautes. J'aurais rappelé à vos auditeurs que le Crédit Lyonnais de l'époque, c'était des voyous. Ils ont fait des milliards de dettes payées par les contribuables. Ils ont les entrepôts dans lesquels il y avait toutes la chimio, c'est un gros défaut, c'est que ça fait paumer la mémoire. Les archives, plus les archives qui étaient au siège, ont brûlé. La police a dit que c'était deux incendies criminels. Et la justice a classé sans suite. Donc, il faut savoir qu'à la même époque, au même moment, monsieur, ils ont fait la même chose aux États-Unis avec une boîte qui s'appelait Executive Life. Et tellement sûrs de leur impunité, tenez-vous bien, ils ont pris les mêmes offshore. Et ils disaient, et aux États-Unis, en France, on connaît pas, on sait pas qui c'est. Donc, il y a un moment donné, je veux bien payer, mais je veux bien payer pour mes fautes, mais pas pour les fautes que j'ai subies.
Bernard Tapie au micro de nos confrères de France Info. Autre affaire judiciaire, mais plus loin de chez nous. L'une des images de cette semaine au Japon, c'était Carlos Ghosn, libre, sortant discrètement de prison, le visage camouflé par un masque respiratoire. L'ex-grand patron de l'automobile française a été libéré sous caution mercredi, après plus de 100 jours de détention provisoire, avec un contrôle judiciaire qui lui impose notamment de rester au Japon et de ne pas contacter le monde extérieur. Via Internet. Il est accusé de malversation financière par la justice de l'archipel. Et si vous vous demandiez comment les Japonais eux-mêmes voient cette affaire, sachez qu'elle les passionne presque plus que nous. Le domicile de l'ancien patron de Renault-Nissan est littéralement assiégé par des journalistes, Dominique André.
Du matin au soir, très tard, sous la pluie ou pas, les grandes chaînes de télévision et les agences de photos de presse sont à poste devant l'immeuble et dans une petite rue derrière pour ne pas manquer une sortie discrète de l'ancien grand patron de l'automobile. De grosses motos démarrent dès que Carlos Ghosn part à bord d'une Mercedes blanche garée sous l'immeuble. La poursuite commence alors, promenade dans le parc, stop dans un hôtel de la capitale. En fin d'après-midi, la journée de la famille Ghosn est connue et diffusée par les chaînes de télévision. Pour la première fois ce week-end, l'épouse de Carlos Ghosn a montré des signes d'agacement en sortant de l'épicerie du quartier où elle avait fait quelques courses. Elle a demandé qu'on les laisse tranquilles. Pourquoi cette traque ? La libération conditionnelle exceptionnelle de Carlos Ghosn fait beaucoup parler. On photographie son visage pour saisir son état. Comment il vit cette situation, décrit un photographe japonais. La remise en liberté de Carlos Ghosn n'a pas plu au parquet. Le bureau des procureurs estime que les conditions du contrôle judiciaire ne sont pas assez strictes. Tokyo, Dominique André, France Inter.
On vous parlait hier de ces marches blanches organisées en hommage à Julie Douib, cette mère de famille trentenaire tuée par balle par son ex-compagnon en Corse. Le 30e féminicide recensé depuis le début de l'année. Hier, près de 4000 personnes avaient déjà défilé à l'Île-Rousse, mais aussi en Seine-et-Marne, dont elle était originaire. Cet après-midi, ce sont plus de 600 personnes qui ont défilé en silence à Ajaccio. Toutes les victimes d'attentats depuis 1974 pourront être honorées par la nouvelle médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme. C'est ce que précise ce matin la chancellerie de la Légion d'honneur dans un décret paru au journal officiel. Initialement, cette médaille, créée en 2016, ne concernait que les attentats commis à partir de 2006. Cette nouvelle date de 1974 va notamment permettre de rendre hommage aux victimes de l'attentat du drugstore Saint-Germain, commis cette année-là, justement en 1974, par le terroriste Carlos. Les précisions de Fabien Randrianariosa.
Opposé depuis le premier jour à une date limite fixée à 2006, il aura fallu près de 2 ans à Guillaume Denoy de Saint-Marc, président de l'Association française des victimes du terrorisme, pour faire entendre raison à l'État.
Ça posait un problème parce que du coup on a l'impression que les victimes des attentats précédents n'étaient pas considérées comme victimes du terrorisme et n'avaient pas droit à cette reconnaissance. Ce qui était inacceptable.
La nouvelle date du 1er janvier 1974 n'est pas choisie au hasard. C'est l'année du premier gros attentat recensé par l'association, celui du drugstore Saint-Germain, évoqué dans cette archive de l'INA.
15 septembre 1974, drugstore Saint-Germain à Paris. En fin d'après-midi, une bombe explose, 2 morts, 34 blessés.
Lors des 2 premières promotions, 164 victimes, dont 38 à titre posthume, ont reçu la fameuse fleur à 5 pétales suspendue à un ruban blanc. Un geste symbolique, rappelle Guillaume Denoy de Saint-Marc.
Cette médaille n'ouvre aucun droit, mais elle est très importante psychologiquement. Et je pense à beaucoup de victimes qui avaient fait des demandes de médailles qui avaient été rejetées. Je pense aussi, tout simplement, moi, à mon père, qui est mort en 89 d'un attentat et donc qui pourra être reconnu.
Le nombre de Français victimes du terrorisme partout dans le monde est inconnu à ce jour. Des attentats des années 70 sont parfois recensés aujourd'hui encore. Une raison de plus pour reculer la date et n'exclure aucune victime.
Enfin, ça ne vous a sans doute pas échappé. Si vous habitez dans le nord de la France, le vent soufflait très fort aujourd'hui et ça n'est pas sans conséquence. En Seine-Maritime et dans l'Eure, par exemple, 6000 foyers ont été privés d'électricité cet après-midi. Conséquence aussi sur les voies ferrées. La SNCF a depuis 14 heures interrompu la circulation sur l'ensemble des lignes TER des Hauts-de-France. On va justement en parler avec vous, Jules Dequisse. Bonsoir.
Bonsoir.
Et le trafic reprend petit à petit dans les dernières minutes.
Oui, il doit reprendre. C'est ce qu'annonce la SNCF. Une reprise progressive au cours de la soirée après ces interruptions qui, pour certaines, durent encore tout de même, avec des arbres tombés sur les voies ou d'autres qui menaçaient de le faire. Mais la compagnie ferroviaire conseille encore quand même de reporter son voyage. Sur la route, c'est surtout pour rejoindre la capitale. On va parler des bouchons, puisqu'il y a les retours de week-end et les retours en vacances. Eh bien, il faut jouer du frein et de l'embrayage sur la 6, notamment au sud de Paris, ou alors à l'ouest sur la 15, et puis sur la 13 pour les retours de Normandie, par exemple. Et c'est la même chose pour rejoindre Marseille, au nord de Marseille, par l'ouest aussi, par la 7 ou par la 51. Il faut s'armer de patience.
Merci beaucoup, Jules Dequisse, en direct du PC Mobilité de Radio France.
La météo, avec Préfond, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur prefond-retraite.fr.
Et après cette journée pleine de vent, on fait le point sur ce qui vous attend dans le ciel en ce début de semaine avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
La dépression à l'origine des vents violents qui ont balayé la moitié nord s'éloigne. Conséquence directe, les vents vont progressivement devenir plus faibles, mais ils seront toujours sensibles, notamment la nuit prochaine, sous les giboulées parfois orageuses qui vont survoler la Normandie, le bassin parisien et les régions allant du nord au frontières du nord-est. Demain, les températures vont un peu baisser partout. Il fera l'après-midi 9 à 13 dans la moitié nord, 14 à 18 au sud, avec un vent assez sensible ce lundi, vers 70 km/h sur la plupart des régions, mais plus fort dans le golfe du Lion, jusqu'à 100 km/h, et même 130 des Alpes à la Corse, sous un ciel toujours bien dégagé sur le bassin méditerranéen, avec des éclaircies de plus en plus larges l'après-midi à l'ouest d'un axe Ardennes, bassin parisien, centre, massif central, mais plus à l'est, c'est un régime de giboulée qui va rythmer la journée avec de la neige à basse altitude sur tous les massifs.
Jean-Michel Golinski de Météo France. Tout de suite, on passe au journal des sports avec vous, Fabrice Abgral. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on y a cru jusqu'au bout, mais c'est pourtant une nouvelle désillusion pour l'équipe de France de rugby dans le tournoi des Six Nations, le 15 tricolore surclassé à Dublin par l'Irlande.
Les Français ont été balayés 26 à 14. Le score traduit mal la déroute des joueurs du 15 de France, tout simplement parce que les Irlandais avaient déjà fait la différence en première mi-temps. Ensuite, ils ont géré le score et maîtrisé la rencontre. On retrouve en direct à Dublin Jérôme Val. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Fabrice.
Sincèrement, aujourd'hui, c'était un match à sens unique.
Oui, le score, vous l'avez dit, hein, c'est un trompe-l'œil au vu de la physionomie de la rencontre. Surtout la première mi-temps qui a été catastrophique, hein, côté bleu. Les bleus qui se sont contentés de défendre, de subir les vagues successives qui déferlaient sur la défense française. Un chiffre, hein, je vais vous en donner qu'un seul. 93%, c'est tout simplement le temps passé par les Irlandais dans le camp français. Ça veut dire que les Français ont passé juste quelques secondes dans cette première mi-temps dans le camp irlandais. 19 à 0 déjà à la pause, 3 essais marqués, un quatrième inscrit au retour des vestiaires. La physionomie de la rencontre qui s'est répétée une nouvelle fois jusqu'à la fin de cette partie, hein, jusqu'aux 3-4 dernières minutes. Il y a eu deux essais français marqués par Johan Hugé et Camille Cham, et le score était déjà acquis. La victoire bonifiée de l'Irlande déjà réalisée. C'était ça que les Irlandais recherchaient. Les Français, eux, sortent, on va dire, la tête très très basse malgré ce score effectivement très très flatteur.
Oui, les Français ont été très largement dominés, hein, par des Irlandais vaillants, agressifs, hein, en total contrôle. Les Français ont été constamment sous pression et ils ont été privés de ballon tout simplement, surtout en première période évidemment.
Oui, privé de ballon, sans aucune imagination, sans aucune initiative. Et à chaque fois qu'il y a eu, on va dire, un début d'offensive, un début de révolte, eh bien ça a tourné court à cause de maladresse, d'erreurs. Il y a eu des joueurs, beaucoup de joueurs, qui sont passés une nouvelle fois au travers de cette partie. Et puis le pire, je vous ai donné juste les 4 essais marqués par l'Irlande, mais il y a eu une bonne dizaine d'occasions franches de la part des Irlandais. Le score aurait pu être beaucoup, beaucoup plus lourd si les Irlandais avaient été un peu plus réaliste. Il y a eu 2 essais également refusés après arbitrage vidéo. C'est dire si cette partie s'est résumée à une attaque défense, hein, on dirait en foot. Eh bien, c'était la même chose cet après-midi sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. C'était une attaque irlandaise et une défense française qui a fini quand même par craquer et surtout qui nous inquiète à quelques mois de la Coupe du Monde.
En effet, la seule petite consolation, hein, dans cette rencontre, c'est le comportement des Français en deuxième période. Vous l'avez dit, un sursaut d'orgueil, mais sincèrement, tout était joué dans cette rencontre à sens unique. Au milieu de cette balade irlandaise, les Français ont montré 2 visages et c'est ce que regrette Jacques Brunel. Écoutez-le, c'est le sélectionneur français.
Première mi-temps complètement manquée, donc bon, on l'avait souligné déjà. On n'a pas eu de ballon, on a été mis sous pression en permanence, on n'a jamais réussi à sortir notre camp. On a fait des erreurs défensives, bon, tout ça fait une très mauvaise mi-temps. Heureusement, on a montré notre état d'esprit dans le deuxième temps. On a montré à la fin un bel esprit puisqu'on revient en deuxième mi-temps avec 2 essais, donc on va retenir la leçon de ce match. On est capable de rivaliser, mais on a montré 2 visages. Et ça, on ne pourra pas rester sur cette image-là tout le temps.
Alors, comme toutes les déroutes mènent à Rome, je sais, c'est facile, mais c'est fait. Prochain rendez-vous des Français samedi prochain à Rome pour y affronter l'Italie, dans ce qui constituera évidemment la dernière journée du tournoi. Le Pays de Galles, de son côté, est toujours invaincu et les Gallois viseront le grand chelem face aux Irlandais.
On passe du ballon ovale au ballon rond, suite de la 28e journée du championnat de France de Ligue 1 avec une bonne opération de Lille.
Oui, les Lillois, dauphins du PSG, sont allés s'imposer à Saint-Etienne 1-0. 1-0, c'est également sur ce score que Toulouse a battu Guingamp. Pas de vainqueur score entre Montpellier et Angers, 2 buts partout. Alors que les Montpelliérains menaient 2-0, les Angevins ont égalisé dans le temps additionnel. Enfin, Rennes a dominé Caen, 3-1. Lille a obtenu donc une victoire précieuse à Saint-Etienne. Les Lillois consolident leur 2e place au classement. Derrière le PSG, les Nordistes possèdent désormais 7 points d'avance sur Lyon, 3e, tenu en échec hier à Strasbourg, 2 buts partout. Les Lillois se donnent de l'air à tel point que Christophe Galtier, l'entraîneur nordiste, n'hésite pas à évoquer la Ligue des Champions.
Je pense que là, ce soir, on fait un grand pas vers une Coupe d'Europe. On doit continuer. Je dis souvent aux gens dans le Nord que pour que ce match contre Lyon, cette confrontation de Lyon, soit une confrontation très importante, il faut gagner des matchs avant. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Depuis janvier, on est pas mal en termes de victoires et de nombre de points. Mais il faut continuer, ne pas se lâcher. On va recevoir vendredi, ça va venir rapidement, on va recevoir Monaco. Voilà, il faudra faire une performance pour avoir une petite coupure internationale avant de se lancer dans ce sprint.
Ce soir, à 21h, Marseille reçoit Nice au stade Vélodrome. Ce seront les retrouvailles entre Mario Balotelli et l'OGC Nice, un club que l'attaquant italien a quitté fin janvier pour rejoindre l'OM. Et depuis que Balotelli est arrivé sur la Canebière, eh bien Marseille est beaucoup plus efficace, Tony Cellier.
C'est simple, en 6 apparitions avec l'OM, Mario Balotelli a déjà fait trembler les filets à 4 reprises. Que demander de plus à un buteur? Surtout, il a marqué à chaque fois qu'il a joué au stade Vélodrome, son nouveau terrain de jeu. Ce que ne manquent pas de rappeler les supporters.
Mario Balotelli, à chaque fois qu'il est venu au Vélodrome, que ce soit avec Nice ou avec l'OM, il a marqué. 2 fois avec Nice et 3 ou 4 fois avec Marseille, il a marqué. Ça change tout.
Alors des buts, oui, mais pas seulement. Mario Balotelli, c'est bien plus que ça, comme l'explique Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Saint-Etienne, qui le compare à un ancien joueur du PSG, un certain Zlatan Ibrahimovic.
Dans le comportement, il me rappelle Ibra. Sa faculté à prendre la pression. Tout le monde regarde maintenant Balotelli, dont les autres sont soulagés. Et il a donné confiance à l'équipe. Je pense qu'il a transfiguré l'OM.
Et c'est exactement ce que confirme son coéquipier, Valère Germain.
Il attire pas mal de défenseurs, quelqu'un qui est costaud devant, donc c'est sûr que c'est plus facile de jouer avec ce genre de joueur. Maintenant, on a pris aussi conscience tous qu'il fallait jouer les uns pour les autres, qu'il fallait tous défendre, tous attaquer.
Un Marseille plus collectif, autour d'un talent individuel hors norme. Si cet OM avait existé depuis le début de saison, c'est évident, les hommes de Rudy Garcia regarderaient plus souvent dans le rétroviseur. Mais pour l'instant, ils se contentent de cravacher pour espérer revenir sur le podium.
À Marseille, Tony Cellier. Côté niçois, le départ de Balotelli a été plus ou moins bien vécu. Personne ne parle de trahison, mais les Aiglons n'en pensent pas moins. À l'image de Malansart, le défenseur de l'OGC Nice.
On lui en veut, c'est sûr, parce qu'on aurait aimé que tous les joueurs de l'équipe soient concernés. Quand il y a un élément comme ça qui se met tout seul à part et qui décide de pas s'intégrer et d'être dans le projet, dans la vision du jeu de l'équipe et de tout le club, c'est sûr que c'est gênant. Après, on doit faire abstraction de tout ça. On a un groupe. On ne doit pas s'arrêter que sur un seul joueur. Ce qu'il a fait, c'est sûr que c'est dommage. On aurait pu vivre des meilleurs moments avec lui, mais il a décidé ainsi, donc on a respecté son choix et on a fait avec.
Marseille-Nice, comptant pour la 28e journée. Coup d'envoi à 21h.
Le Paris Saint-Germain, lui, ne jouait pas ce week-end. Son match à Nantes a été reporté à une date ultérieure.
La Ligue avait pris cette décision bien avant la traumatisante élimination des Parisiens mercredi dernier en 8e de finale de la Ligue des Champions face à Manchester. Cette élimination hante encore tous les esprits des joueurs parisiens, à commencer par Kylian Mbappé. L'attaquant parisien s'est exprimé ce matin dans Téléfoot sur TF1. Mbappé, visage tendu, passablement frustré, s'est confié sincèrement, sans détour. Et pour lui, clairement, les joueurs parisiens sont entièrement responsables de cette élimination.
Je suis abasourdi, il n'y a pas les mots, parce que on a gâché la fête. C'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont douter à l'avenir. Mais voilà, moi je continue à croire en ce projet. Je suis sûr que voilà, on va arriver à faire quelque chose de bien dans ce club. Je pense que voilà, les supporters nous soutiennent. Maintenant, je pense qu'il faut que ce soit nous qui fassions les choses. Et je pense que tous ensemble, en se remettant en question et en se posant les bonnes questions, voilà, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien à l'avenir. Si on est éliminé, c'est peut-être qu'il nous manquait des choses, qu'on n'était pas à la hauteur. Maintenant, il faut finir la saison des meilleures des façons et préparer l'année prochaine pour essayer de revenir et d'être meilleur.
Et à la question, resterez-vous au Paris Saint-Germain la saison prochaine? Kylian Mbappé dit oui.
Je serai là, c'est sûr même. Avec tous les problèmes que va engendrer cette élimination, ça sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. Donc voilà, c'est clair et c'est précis.
Kylian Mbappé et ses coéquipiers du PSG devaient reprendre initialement l'entraînement aujourd'hui au camp des loges. Mais la séance a finalement été délocalisé au Parc des Princes pour des raisons de sécurité. Certains supporters du PSG, sur présentation de leur carte d'abonnement, ont eu le droit d'entrer dans le stade, mais ils en ont profité pour manifester leur mécontentement, pour faire comprendre aux joueurs qu'ils n'avaient pas été mercredi à la hauteur de l'événement. Ils ont sifflé les joueurs, ils les ont hués, ils les ont insultés et des pétards ont même explosé à l'intérieur du Parc des Princes.
La face qu'on n'aime pas trop voir dans le sport, toujours pas de titre, mais un nouveau podium pour la France au championnat du monde de biathlon à Östersund, en Suède.
Et une deuxième médaille de bronze pour Quentin Fillon-Maillet. Après le sprint hier, le Français a terminé troisième de la poursuite, remportée par l'Ukrainien Dimitro Petrouchny, devant le favori, le Norvégien Johannes Bø. À Östersund, la correspondance de Fanny Le Chevestrier.
Une course où on a cru un temps que Martin Fourcade, le quintuple champion olympique et champion du monde en titre de la spécialité, allait enfin renouer avec le podium, voire la victoire. Mais patatras, il y a eu ces deux fautes au tir et au final une cinquième place qui laisse des regrets. Il y a eu aussi la remontée fantastique d'Antonin Guigona, parti en 20e position, revenu à la 2e place avant de lui aussi s'écrouler sur l'ultime séance de tir. Et puis, il y a désormais toujours Quentin Fillon-Maillet, parti timidement après deux fautes d'entrée, mais qui a su ne rien lâcher, tel un Morbac, son sur nom qui lui colle définitivement à la peau pour aller chercher au sprint le point rageur, la 3e place de cette poursuite. Ultime rebondissement d'une course pas comme les autres, le dernier tir complètement raté du Norvégien Johannes Bø, 2e, et qui laisse filer le titre à l'inconnu du jour, Dimitro Petrouchny, qui semblait ce soir un peu perdu sur l'estrade, aux côtés de Johannes Bø, peu loquace et même énervé par le résultat.
Et justement, Fanny, vous parliez de Martin Fourcade, toujours pas sur le podium de ces mondiaux, 5e aujourd'hui. Voici sa première réaction, cela commence à l'énerver un tout petit peu.
J'ai loupé ma chance sur le 3e tir, alors je crois qu'il n'y a pas besoin d'être médium pour s'en rendre compte. Donc oui, c'est un peu rageant parce que ça passe encore pas loin, parce que je suis sur une série de 4, 5, 6e place aussi. Voilà, c'est sûr que c'est un peu rageant, mais c'est le jeu du sport. Aujourd'hui, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu du plaisir déjà un peu sur la piste qu'il n'y avait pas eu sur le sprint. Donc voilà, je me raccroche à ça. Et bien sûr que c'est frustrant de ne pas arriver à attraper ce podium. Ensuite, voilà, il reste deux belles courses individuelles. Et en tout cas, moi, je vais essayer de défendre crânement ma chance.
Demain, pas de compétition à Östersund. Journée off pour tous les biathlètes. Ça reprendra mardi.
Un Néerlandais, premier porteur du maillot jaune de leader sur le Paris-Nice cycliste.
Dylan Groenewegen a remporté au sprint la première étape, une boucle de 138 km autour de Saint-Germain-en-Laye. Une étape sérieusement perturbée par les conditions météo. La violence du vent a sérieusement contrarié la progression des coureurs, provoquant des chutes et des bordures. À Saint-Germain-en-Laye, Fabrice Rigobert.
Des bourrasques de vent, des averses, des chutes, cette première étape courte et nerveuse a offert le spectacle attendu. Une course usante, éprouvante, Damien Godin échappé pendant 90 km avec Amaël Moinard et Romain Combeau a endossé le maillot à poids des grimpeurs.
De toute façon, le vent, ça rend tout de suite de la tension dans le peloton. En plus, c'est Paris-Nice, c'est la première grosse course en France. Donc voilà, il y a des grimpeurs, il y a des sprinteurs, il y a des rouleurs, donc tout le monde veut sa place. Tout le monde ne peut pas passer, quoi.
Les formations les plus fortes n'ont eu de cesse de mettre la pression pour créer des cassures, les bordures à la faveur du vent. Le vainqueur sortant, Marc Soler, s'est fait piéger et a abandonné une minute au classement général. L'anglais Simon Yates a lui réussi à revenir avec les meilleurs, dont Romain Bardet. Un rythme qui a épuisé Arnaud Démare, 7e et premier français au sprint aujourd'hui.
J'étais vraiment bien placé, j'ai manqué de fraîcheur sur une journée qui était difficile. Hein. C'était vraiment par moments des gros coups de vis, puis après ça temporisait. Nerveusement, il fallait vraiment toujours rester concentré, rester devant. Même si on a fait que 3 heures de vélo, c'était très intense.
Et le même scénario est attendu demain entre les Brévières et Bellegarde dans le Loiret. Saint-Germain-en-Laye, Fabrice Rigobert, France Inter.
Une deuxième étape longue de 163 km.
Marcel Hirscher entre lui encore un peu plus dans l'histoire du ski alpin.
L'Autrichien s'est adjugé aujourd'hui la Coupe du Monde, récompensant sa régularité sur l'ensemble de la saison. C'est son 8e globe de cristal consécutif. Il s'est assuré le titre en terminant 3e du slalom de Kranjskagora. Alexis Pinturo, 3e temps de la première manche, a terminé 7e juste devant Clément Noël. En ski alpin, clairement, il y a Marcel Hirscher et les autres ne peuvent que constater que l'Autrichien est sans contestation le plus grand skieur de tous les temps. Alexis Pinturo explique pourquoi Hirscher domine autant son sport.
C'est un tout, c'est beaucoup de petites choses, c'est de la récupération, c'est de la logistique qui est infaillible, c'est de l'entraînement qui est toujours au top, c'est une préparation physique et des conditions physiques qui sont bonnes, un mental d'acier. C'est le plus grand skieur alpin de l'histoire. Hein. Alors oui, les records, il en a déjà un paquet et il les a presque pour beaucoup battus. Et le peu qui reste à battre, ça dépend uniquement du temps finalement où il aura envie de continuer à skier. Voilà, c'est incroyable, hein. Ça fait un grand athlète. Il est très régulier, c'est ce qui fait vraiment sa force pour les classements à la fin de la saison. Ouais.
La saison de ski alpin touche à sa fin. Les finales de la Coupe du Monde, hommes et femmes confondus, auront lieu en Andorre à partir de mercredi prochain.
Merci beaucoup Fabrice Abgral. Et avant de conclure ce journal, cette information qui vient tout juste d'arriver, le Quai d'Orsay confirme à l'instant que 8 Français figurent en fait parmi les victimes du crash d'Ethiopian Airlines ce matin. Le parquet de Paris lui annonce avoir ouvert une enquête. 19h29 sur France Inter, on passe tout de suite au petit bateau avec Noël Briam.